VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. L'ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba entendra aujourd'hui sa peine infligée par la Cour pénale internationale, la CPI, pour une condamnation de subornation de témoins pour laquelle il est exclu de la course à la présidence de la RDC. En liberté provisoire, après avoir passé plus d'une décennie au centre de détention de la CPI à La Haye, où est basée la Cour, l'ancien vice-président congolais traîne avec lui une condamnation connexe qui lui a valu d'être définitivement exclu par la Cour constitutionnelle de la présidentielle du 23 décembre en RDC. Sept leaders de l'opposition sont par ailleurs seront en meeting à Kinshasa le samedi 29 septembre prochain pour exiger de bonnes élections. Candidat à président de la République pour la plupart, ses opposants l'ont fait savoir à travers un communiqué qui dénonce l'instrumentalisation par le pouvoir de la Commission électorale nationale indépendante. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM.
L'opposition politique qui milite toujours pour le respect de la Constitution et la mise en œuvre effective de toutes les mesures de décrispation prévues dans l'accord du 31 décembre 2016 tient à l'organisation des élections crédibles, inclusives et apaisées le 23 décembre prochain, indique le communiqué avant de poursuivre. Elle a aligné ses candidats à tous les niveaux et ne s'inscrit pas dans la logique du boycott des élections. Par contre, poursuit le communiqué, l'opposition politique ne permettra jamais la tenue d'une parodie d'élection. Ce communiqué signé par sept leaders de l'opposition, Vital Kamerhe de l'UNC, Martin Fayulu de la Dynamique de l'opposition, Félix Tshisekedi de l'UDPS Tshisekedi, Adolphe Muzito de l'UREP, Moïse Katumbi d'Ensemble pour le Changement, Jean-Pierre Bemba du MLC et Freddy Matungulu de Congo Nabisso annoncent donc l'organisation d'un grand meeting à Kinshasa le samedi 29 septembre courant pour appeler la population à adhérer à cette cause. Kinshasa, Thierry Kabundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Merci Thierry. Au Mali, l'opposition continue de rejeter les résultats de la présidentielle, donnant le sortant Ibrahim Boubacar Keïta vainqueur. D'ailleurs, le gouvernement a tenu son premier conseil des ministres. Le président a demandé à son équipe, selon un communiqué officiel, de poursuivre avec célérité l'application de l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion. Kassim Traoré nous en dit plus.
Telle une rentrée scolaire, un nouveau ministre était au palais de Koulouba pour le premier conseil des ministres du second mandat du président Ibeka. Occasion pour le chef de l'État de dévoiler sa feuille de route. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Premièrement, la gouvernance et les réformes politiques et institutionnelles. Deuxièmement, la promotion d'une croissance inclusive. Troisièmement, le développement du capital humain et l'inclusion sociale. Quatrièmement, l'environnement, le changement climatique et le développement durable. Enfin, notre présence au monde, la diplomatie, la coopération internationale et le partenariat. Je vous instruis à poursuivre avec célérité la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, ainsi que est institué, avec comme seul souci la promotion du développement global de notre cher Mali.
L'opposition malienne dit avoir mobilisé 25 000 personnes pour une marche de contestation de la fraude électorale. Thieblain Dramé, directeur de campagne du candidat Soumaïla Cissé.
Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas été élu. Son mandat est fini le 3 septembre 2018. Depuis le 4 septembre à 01, il est un président de fait. Il n'a plus la légitimité des urnes. Et le combat, c'est pour établir la légitimité des urnes. Les autorités qui sont en place sont des autorités de facto.
Je vous jure, il n'y a aucun doute que le dernier mot reviendra au peuple malien. Et la vérité du peuple sera rétablie. La vérité des urnes sera rétablie.
Du côté de la majorité présidentielle, c'est la mobilisation pour les législatives et les adhésions des clubs de soutien.
Camarades, dites-vous que nous avons décidé de nous engager avec le Rassemblement pour le Mali, le RPR. C'est pour donner une fois de plus un levier au président de la République. Ce levier, il va se traduire par une majorité, je dirais, plus que confortable à l'Assemblée nationale.
On se sent tous renforcés parce qu'il s'agit là d'une bonne partie de la société civile qui est organisée en association, en club et en mouvement de soutien. Que ces jeunes patriotes décident de nous soutenir, je pense que c'est une force considérable.
Lors de la marche de samedi dernier, Soumaïla Cissé a fait savoir que le combat va se poursuivre.
Nous luttons pour que les libertés démocratiques soient une réalité dans ce pays. Nous luttons pour que les voix soient désormais respectées. respectée dans ce pays. Nous luttons pour qu'il n'y ait jamais plus de fraude dans les élections dans notre pays. Nous serons à vos côtés pour combattre l'injustice. Nous serons à vos côtés pour combattre l'impunité. Nous serons à votre côté pour que notre pays avance dans le sens de la démocratie. Nous allons continuer à donner des leçons de démocratie à l'ensemble de la sous-région. Nous allons montrer que les Maliens ne baissent pas les bras devant la fraude. Les Maliens ne baissent pas les bras devant le mensonge.
IBEFA a fixé les capes de son gouvernement alors que l'opposition veut rester toujours dans la rue. En tout cas, le ministre de l'administration territoriale s'attelle pour l'organisation des législatives dont le premier tour est prévu pour le 25 novembre prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'Éthiopie et l'Érythrée ont signé hier en Arabie Saoudite un accord consolidant leur réconciliation et renforçant la sécurité et la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique. Les détails, Nicolas Pinault.
Les détails de ce nouvel accord signé dans la ville de Jeddah n'ont pas été divulgués, mais des sources proches du gouvernement saoudien affirment qu'il contribuera à consolider les relations entre les deux pays. Présidée par le roi Salman d'Arabie Saoudite, la cérémonie de signature s'est déroulée en présence de son fils, le prince héritier Mohamed Ben Salman, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'accord de paix signé ce jour entre l'Éthiopie et l'Érythrée à Jeddah est un événement historique qui va contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la région. S'est félicité sur Twitter le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jouber. Le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avaient officiellement mis fin le 9 juillet dernier à ce conflit frontalier qui a fait 80 000 morts entre 1998 et 2000, signalant un spectaculaire rapprochement opéré sous l'impulsion de M. Abiy. Le rapprochement s'est traduit notamment par la réouverture des ambassades à Asmara et Addis Abeba et le rétablissement des liaisons aériennes, des relations commerciales et des lignes téléphoniques entre les deux pays.
En direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Sept civils ont été tués dans une frappe aérienne attribuée à la coalition sous commandement saoudien au Yémen, ont indiqué ce lundi un responsable local et une chaîne de télévision rebelle. La frappe aérienne a eu lieu dimanche dans le district de Oran de la province de Baïda, dans le centre du pays, a précisé ce responsable et la chaîne Al-Masira, ajoutant que les victimes sont un homme, quatre femmes et deux enfants. La Turquie, qui tente de prévenir une offensive d'envergure du régime syrien et de ses alliés à Idlib, a envoyé des renforts militaires vers l'un de ses postes d'observation dans la province rebelle syrienne. Ces renforts, composés essentiellement de chars et d'autres équipements militaires, sont les plus importants à être acheminés vers Idlib depuis début septembre, au moment où les présidents russes Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan se retrouvent aujourd'hui même à Sochi, dans le sud-ouest de la Russie, pour tenter de s'entendre sur le sort du bastion rebelle. Le sud-est des États-Unis, toujours sous la menace des inondations devant la montée des eaux après le passage de l'ouragan Florence qui a fait au moins 15 morts depuis vendredi, sauveteurs et forces de l'ordre restent mobilisés aujourd'hui et pour plusieurs jours dans le sud-est des États-Unis pour porter secours aux populations menacées. Le patron de l'Agence fédérale des services d'urgence, la FEMA, Brock Long, a prévenu que le centre et l'ouest de la Caroline du Nord notamment, ainsi que la Virginie, n'en avaient pas fini avec les intempéries. Nous en avons encore pour plusieurs jours, a-t-il dit sur CNN. Des milliers de Nicaraguais ont défilé dimanche dans la capitale pour exiger la démission du président Daniel Ortega et la libération des prisonniers politiques emprisonnés depuis le mouvement populaire déclenché en avril, dont la répression a fait plus de 320 morts. Convoquée par les formations de l'opposition, elle s'est tenue malgré la présence de centaines de policiers anti-émeutes regroupés en cordon par endroits pour canaliser les manifestants qui leur lançaient des assassins au passage sans déclencher d'incidents. Et puis, la question de la dénucléarisation est une priorité pour le président sud-coréen Moon Jae-in, qui se rend cette semaine à Pyongyang pour son troisième sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a affirmé aujourd'hui la présidence sud-coréenne. M. Moon, qui se rend mardi dans la capitale nord-coréenne, nouveau signe de rapprochement sur la péninsule, même si les négociations sur la dénucléarisation entre le Nord et Washington patine à bien endroit. Jean-Roger Billon à ce micro, prochaines infos dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent et à bientôt.
cœur de l'info sur VOA Afrique.